Pourquoi vos prix ne sont pas affichés normalement et pourquoi il y a les petits panneaux là ?
J'essaye d'actualiser mes prix pour rentabiliser mes coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter. Tout augmente, tout. La viande, les légumes, la bière a pris 20%. Et pas seulement ça, mais les factures d'électricité, de gaz. Ce mois-ci, l'électricité a doublé et le gaz a triplé en un mois.
Des prix qui s'envolent, une monnaie qui s'écroule, la récession qui dévore des milliers d'emplois, l'Argentine replonge en cette année 2018 dans les abîmes de la crise économique. Un écho douloureux à ce qu'avait connu le pays il y a 17 ans.
Le pays est au bord de la faillite. Le chômage grimpe en flèche. Les salaires ne sont plus payés. Pire, le gouvernement a limité à 1500 francs le retrait de liquidités par semaine. Pas d'autre choix dès lors pour beaucoup. Que le pillage.
Pillage, fermeture de banques, manifestations virulentes, répression violente et chute du pouvoir en place. L'Argentine de 2018 n'en est pas encore là, mais les ingrédients sont semblables. Comme en 2001, l'origine de la crise est monétaire, le peso a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, et comme en 2001, le Fonds monétaire international a été appelé à la rescousse.
Le FMI en Argentine, c'est comme un gros mot. Tous les manuels d'économie le disent. Quand l'activité économique est déjà en baisse, les plans d'austérité la font baisser encore plus.
En échange de sévères coupes budgétaires, moins 10% l'an prochain, le FMI a consenti un prêt de 56 milliards de dollars. Mais la pauvreté regagne du terrain, subie par plus d'un quart de la population. Un an des élections générales, le crédit du président libéral Mauricio Macri apparaît sérieusement entaché.
Pour nous, c'est intolérable. On a touché les fonds.
Alors pour remonter, les Argentins se prennent en main. Soupe populaire, retour du troc et entreprises reprises en coopérative. L'Argentine, face au cercle vicieux de la crise, c'est un reportage de Vanessa Descoureaux avec Audevillier Moriami.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
C'est l'Orchestre symphonique national qui se prépare devant le Congrès ici à Buenos Aires, puisque c'est aujourd'hui que les sénateurs votent le budget de l'austérité. Et une partie de cet orchestre est en train de se préparer pour jouer l'hymne argentin devant un public particulier, puisque c'est un public de manifestants. Les partitions sont accrochées avec des épingles à linge, puisqu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui.
Libertad, libertad, libertad. Oiré ruido de rotas cadenas.
Je m'appelle Marcelo Masson. Je suis violoncelliste à l'Orchestre symphonique national de l'Argentine depuis 25 ans.
Cet orchestre a vu son budget passer de 8 millions l'an passé à moins d'un million pour l'année à venir 2019, précisément 900 000 pesos argentins. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'orchestre au quotidien ?
Ça veut dire que c'est impossible de faire la prochaine session parce qu'il n'y a pas de budget pour payer les chefs d'orchestre, pour payer les solistes, pour payer les partitions. Ça veut dire que c'est impossible notre travail dans la prochaine session.
Donc des musiciens sans représentation, sans concert, sans chef d'orchestre, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Bon, c'est vraiment très difficile. Il faut lutter pour avoir l'argent pour pouvoir travailler, c'est ça. Nous sommes l'orchestre national, il faut faire des tournées pour tous les pays. Ça, c'est impossible. Mais même si on n'est pas les chefs d'orchestre qui viennent diriger, c'est impossible de travailler.
C'est spécifiquement cet orchestre ou, d'une manière générale, le domaine de la culture qui est visé ?
C'est général. Et dans la Secrétariat de Culture, il y a 9 organismes musicaux. C'est tout presque la même situation. Mais le problème pour nous, c'est encore pire parce qu'on travaille toujours avec des chefs d'orchestre et solistes qui viennent de l'étranger. Nous avons deux problèmes. Une chose, c'est les valeurs du dollar par rapport au peso. Et l'autre, c'est la réduction du budget.
Et ces deux problèmes cumulés font que personne, aucun chef d'orchestre, aucun soliste, ne va venir ici travailler avec vous quelques semaines.
C'est pas possible.
Oui, c'est pas possible. Pour nous, c'est incroyable, c'est intolérable. C'est un point de coupe, comme on dit, un point de corte.
Un point de rupture ?
Oui, c'est ça. On a touché les fonds.
Gracias a los compañeros, el aplauso bien fuerte para la Orquesta Sinfónica Nacional y los miembros de la Orquesta y Coro de Cielos. Ellos también víctimas del ajuste de este presupuesto.
El presupuesto 2019 es ley. Tendrá un ajuste de más de 400 mil millones de pesos. El Senado lo aprobó con 45 votos a favor y 24 en contra y una abstención.
Selon une étude d'un cabinet argentin qui a sondé plusieurs centaines d'entreprises, une société sur deux songe à licencier dans les prochains mois. Elles étaient seulement 18% à le penser en mars. C'est dire si le front de l'emploi est en lambeaux désormais en Argentine. Et c'est ce que nous allons voir dans la banlieue sud de Buenos Aires. C'est une zone industrielle. Nous sommes devant une entreprise qui a fermé ses portes en octobre. 86 personnes licenciées et elles s'installent désormais dans un campement juste devant leur ancienne usine.
Soy Andrés Bren, trabajador de Canales.
Je suis Andrés Bren, je travaille à Canales depuis 24 ans. Tous ceux qui entraient ici se sentaient en confiance. Ils pensaient qu'ils allaient faire toute leur carrière ici. D'ailleurs, la plupart de nos collègues partis à la retraite avaient au moins 30 ans d'ancienneté dans cette entreprise.
Et tout ça s'est arrêté en octobre. Est-ce que ça vous a surpris, l'annonce de la fermeture, de votre licenciement ?
Oui, ça a été une vraie surprise pour nous. Malgré les conflits à répétition qu'on avait depuis
2014-2015.
C'était d'autant plus surprenant qu'à la fin de l'an dernier, fin 2017, l'entreprise nous avait dit que ça faisait 8 ans que la production n'avait pas été aussi importante. On aurait pu envisager quelque chose comme ça, mais avant. Mais là, l'entreprise nous a demandé de lui faire confiance, de garder espoir. Et bon, voilà. C'est comme ça qu'ils nous ont remerciés. C'est ce que je te disais tout à l'heure au sujet de nos faibles possibilités de retrouver du travail. J'ai des attaches ici. Je veux rester. Ça fait partie de ma vie. Si je regarde en arrière tout ce que j'ai construit ici, dans mon travail, j'ai mes racines ici. C'est difficile de s'en séparer. Il y a beaucoup d'histoires, de camaraderie, d'amitié. C'est dur d'abandonner tout ça. C'est dur. Et je crois que notre combat, on le mène aussi pour l'autre. De lui tendre la main comme on nous a tendu la main à un autre moment, c'est ce qui donne cette unité. Celle que nous avons, elle est très forte. L'objectif, c'est de pouvoir tous revenir. Pour moi, pour les camarades, pour les familles de mes camarades, pour ma famille, pour tous.
Nous allons visiter cette usine avec Nicolas Maki, qui en est le délégué, un ancien salarié bien évidemment, de cette entreprise qui fabriquait jusqu'alors des conserves pour un grand groupe d'agroalimentaires argentins. Et si on est autorisé à visiter cette usine, c'est parce que la justice en a donné le droit aux anciens salariés.
Hola. Hola. Qué feo el eco. Esto tiene que estar haciendo ruido. Machina, boum, 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 boum.
C'est laid, l'écho. On ne devrait pas entendre ça, on devrait entendre des machines, boum, boum, boum. L'écho, c'est laid.
Hola. C'est triste.
Au terme de la visite que vous venez de nous faire, Nicolas, quelles sont les perspectives de reprise de cette entreprise aujourd'hui ?
C'est difficile. Je ne sais pas si on va pouvoir reprendre la production. On va faire ce qu'on peut, mais bon, il nous reste peu d'options. Parce que le propriétaire a abandonné l'usine sans nous verser d'argent, sans indemnisation. Alors on fait ce qu'on peut. Et vu la situation dans le pays, c'est peut-être encore plus difficile qu'avant de former, par exemple, une coopérative.
La coopérative est aujourd'hui l'option la plus probable pour vous ? Un repreneur, c'est exclu ?
Ça pourrait être un repreneur. Pour nous, ce serait d'ailleurs plus facile qu'il vienne, qu'il investisse, qu'il s'occupe de la logistique et tout ça. Parce qu'il faut se rendre compte. Nous, pendant toutes ces années, on s'est habitué à travailler sans penser à cet aspect-là. Et d'un jour à l'autre, on devrait prendre en charge toutes ces questions administratives et de logistique. On n'est pas préparé à ça. Et d'ailleurs, quand on envisage la coopérative, c'est plutôt comme une option, un outil judiciaire ou légal. On ne le voit pas comme une fin en soi. En Argentine, on n'a pas beaucoup d'options quand le propriétaire abandonne son entreprise face à une faillite. Il n'y a pas beaucoup d'options.
Tout à l'heure, vous avez dit « on n'est pas préparé à ça ». Est-ce que ça vous fait peur, du coup ?
Aujourd'hui, on n'a plus peur de rien. Il faut affronter la situation et aller de l'avant. On va devoir apprendre.
Contarles que la empresa Canales despide trabajadores y se niega a pagarles.
Les salariés ont installé ce campement depuis le mois d'octobre et puis pour tenir, bien évidemment, il faut de l'argent. Et l'argent passe par la vente de boissons et de nourriture. Nous sommes en Argentine, donc tout se passe autour d'un barbecue, bien évidemment.
Seguiremos luchando, seguiremos unidos, aunque crean lo contrario, no nos han vencido. Seguiremos luchando, seguiremos.
Vous êtes un habitant du quartier, un riverain de cette entreprise. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Ça a toujours été quelque chose d'important pour le quartier. Moi, quand j'étais petit, j'allais au collège juste à côté. Ça a toujours été quelque chose de très impressionnant, de très imposant pour nous. Et en plus, c'est une entreprise très reconnue au niveau national.
Dans le quartier, on voit, il y a plein de gens qui s'arrêtent, qui mangent. Il y a des tables qui sont dressées pour les gens du quartier. C'est quelque chose d'important pour ce quartier.
Oui, c'est quelque chose d'important pour le barrio. Je crois que la gente tomó conciencia enseguida de la problemática que había en la fábrica.
Oui, je crois que c'est vraiment très important pour le quartier ce qui se passe. Et d'ailleurs, on voit que les voisins qui viennent ici manger, ils choisissent de venir ici plutôt que d'aller dans un restaurant un peu plus prestigieux parce qu'ils veulent se solidariser.
L'un des signes les plus visibles de cette crise en Argentine, c'est le nombre de commerces fermés, grilles baissées, rideaux de fer tirés. Nous sommes dans le quartier de classe moyenne de Villa Crespo, scène de la vie quotidienne ici. Il y a deux magasins côte à côte, ils sont fermés. L'un d'eux est en liquidation judiciaire, complètement vidé. Il ne reste que des papiers volants à l'intérieur. Alors là, on est devant un petit restaurant de quartier. Et ce qui est assez notable, quand les prix sont affichés, c'est qu'ils sont affichés sur des petits cartons, c'est-à-dire qu'on peut les enlever rapidement parce que les prix changent si vite qu'on ne peut plus les afficher en dur, les prix, puisqu'ils changent quasiment tous les jours. Noélia, vous êtes la patronne ici ou... Pourquoi vos prix ne sont pas affichés normalement et pourquoi il y a les petits panneaux là?
Siempre tengo que cambiar los carteles porque todos los días suben los precios.
J'essaie d'actualiser mes prix pour rentabiliser mes coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter. J'essaie de ne pas changer les prix tous les jours, même si mes coûts à moi augmentent tous les jours, mais pour ne pas impacter trop la vente qui déjà est un peu maigre.
Pour qu'on comprenne bien, vos coûts à vous ils augmentent, mais de combien et sur quels produits?
Tout augmente, tout. La viande, les légumes, la bière a pris 20%. Et pas seulement ça, mais les factures d'électricité, de gaz. Ce mois-ci, l'électricité a doublé en un mois et le gaz a triplé. Et donc, quand on pense qu'un coût va se tranquilliser, un autre explose. Et c'est très difficile de faire face. Nous, on s'en sort parce qu'on a ce petit commerce qu'on tient de manière familiale. Je le tiens avec mon mari, avec ma mère. Et donc, pour l'instant, ça va. Mais sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait passé la clé sous la porte.
Vous avez peur, si ça continue un peu trop longtemps, de devoir fermer ?
Je suis
très fatiguée. J'ai l'impression qu'on ne fait que travailler pour payer nos factures et payer nos coûts. Et je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir, on résiste. Mais c'est vraiment compliqué parce qu'on travaille pour rien. À la fin, il ne reste rien.
Là, il est quoi? Il est 10h30, vous allez ouvrir un petit peu plus tard là?
À las 11.
À 11h.
Oui. También anoche estuvimos trabajando hasta tarde y por eso.
Parce qu'ils ont travaillé jusque tard hier soir. Donc ils commencent à 11h.
Todos los días hasta las 12.
De lundi à lundi, tous les jours, jusqu'à minuit.
Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza. Ay, ay, uy, 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 que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten que Jujuy.
Interception sur France Inter.
Nous sommes avec Martine Alfier, qui est économiste. Dans ce contexte-là, est-ce que l'objectif zéro déficit, ou plutôt équilibre budgétaire, je ne sais pas comment il faut l'appeler, est tenable ?
Alcançable est.
Je crois qu'on peut atteindre cet objectif de déficit zéro. Le vrai problème, c'est le coût pour y parvenir. Tous les manuels d'économie le disent, quand l'activité économique est déjà en baisse, les plans d'austérité la font dégringoler encore plus. Et ce qui va se passer l'an prochain, c'est que cette politique d'austérité va aggraver la récession. Atteindre cet objectif de déficit zéro, on le peut, mais ça veut dire plus de chômage, moins d'activité économique et probablement plus d'inflation. C'est une solution compliquée. Mais il y a aussi le risque qu'on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que si l'économie du pays continue de chuter, il y aura moins de recettes pour le gouvernement. Il touchera moins d'impôts. Il devra dépenser encore moins s'il veut atteindre l'équilibre budgétaire. C'est un cercle vicieux qui est peut-être néfaste. C'est ce qu'on appelle le piège de l'austérité. Ici, en Argentine, le FMI est comme un fantôme, très présent pour nous. Ça nous rappelle la Grèce, mais surtout la crise de 2001. À l'époque, le FMI a joué un rôle très important de soutien aux politiques d'austérité menées par le gouvernement. Ces politiques qui ont conduit le pays vers la crise. Donc le FMI en Argentine, c'est comme un gros mot.
Et cette idée de perte de souveraineté, puisque le FMI semble finalement absolument au contrôle et au pouvoir de ce pays, et non pas le gouvernement, au final.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le FMI qui contrôle l'économie du pays. Il y a peu de temps, le président de la Banque centrale a dû démissionner car il avait des différends avec le Fonds monétaire international. Et c'est d'ailleurs ce que reproche l'opposition au gouvernement. C'est d'avoir pris cette décision si engageante sans en avoir discuté avec le reste des forces politiques. Et c'est un problème, parce que le gouvernement qui va devoir rembourser la dette avec le FMI, ce n'est pas le gouvernement actuel, ce sera le suivant, élu l'an prochain. Et ce futur gouvernement va hériter de cette situation. Il devra négocier dans une position de faiblesse.
Seguimos sumando cámaras en la red de trenes para que viajemos más seguros.
Nous quittons quelques instants Buenos Aires pour aller à La Plata. C'est à une petite soixantaine de kilomètres au sud-est de la capitale.
Todas probadas y todas funcionando. En perfectas colecciones.
Cargar el arroz.
Alors là, on suit Hernan qui décharge du riz, du pain et du poulet, le poulet qu'il a acheté lui-même sur ses fonds propres.
Y arroz, bueno. Está buenísimo. Vamos a ver si lo podemos hacer más seguido.
30 kilos de riz.
Y bueno, y traje pan también que había allá.
Et le pain pour finir.
Mi parte del trabajo ya casi terminó, digamos. Ya ahora es mérito de eso, lo que sale.
André, anda que te da la leche.
Hernán, on vous a vu décharger du poulet, 30 kilos de riz, du pain, des sacs, des gros sacs de pain. Racontez-nous à quoi ça va servir.
Bueno, lo que se va a hacer hoy.
Ce qu'on va faire là et ce qu'on fait tous les vendredis chez Paola, c'est une cantine populaire. L'idée, c'est d'apporter aux gens dans le besoin du quartier Churrasco, ici dans la ville de La Plata, au moins un repas par semaine qui soit bon, nutritif et qui tienne au corps. De quoi les aider à résister à cette situation de crise.
Et ce qui est très important, c'est qu'il y a de la viande ce soir. Et les gens qui vont venir n'en mangent pas très souvent ici. Il y a du poulet. Ça, c'est très important qu'il y ait de la viande.
La carne vacuna, que
le problème avec la viande bovine en Argentine, qui est celle qu'on consomme traditionnellement le plus ici, c'est que le prix a véritablement explosé. Et donc, on a remplacé dans la consommation le bœuf par le poulet. Un animal élevé en ferme, de manière industrielle. C'est forcément plus économique, plus facile de s'en procurer. Et aujourd'hui, à La Plata, on voit ça. Des gens se ruent dans les boucheries spécialisées dans la volaille.
Comprando lo mínimo indispensable.
Ces boutiques sont pleines car les gens y achètent la quantité nécessaire pour leur vie quotidienne.
Nous sommes dans la cour de la maison de Paola, puisque c'est elle qui organise cette cantine populaire qu'elle a lancée il y a 2 mois. Pour quelle raison ? À quel moment vous avez senti la nécessité de faire ça ?
On a lancé ce projet avec des amis il y a 2 mois, parce qu'on s'est rendu compte de la réalité sociale dans le pays, de la crise.
On sait que la estamos pasando mal, que no podemos.
Les gens de plus en plus faim, et ça se voit, moi je le vois. Et donc on a commencé cette cantine populaire pour répondre à cette situation. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Les gens vont arriver avec leur propre Tupperware. C'est incroyable quand on y pense de se déplacer dans un autre endroit qui n'a rien à voir avec ta maison pour chercher de la nourriture, des gens que je ne connais même pas.
Paola, la première fois que vous avez fait ce feu devant cette table avec cette nourriture et ces repas que vous préparez, que vous avez vu ces gens justement venir chercher de la nourriture, vous ne les connaissez pas. Ça vous a fait quoi ?
Medio tristeza y medio bronca a la vez.
Ça me donne de la tristesse et de la colère à la fois.
Yo también lo siento cuando veo un troque.
Et ça me rappelle surtout quand moi j'allais faire le troc avec ma mère en 2000.
Y yo me acuerdo que mi mamá nunca me decía, ¿viste? Vamos al troque.
Et ma mère elle me disait pas on va au troc échanger des vêtements.
Cambiando ropa de ellos por comida, ¿entendés?
Et j'aurais pas pensé devoir organiser de nouveau quelque chose comme ça en 2018.
Vous étiez petite fille pour la crise de 99-2001.
Tengo 34 años. Al 2000 era chica, pero antes no se vivía lo que se vive ahora.
Oui, j'ai vécu la crise de 2000-2001 quand j'étais jeune parce que j'ai 34 ans aujourd'hui.
Es triste ver a la gente, es triste ver a mis hijos sentados en una manta cambiando ropa por comida.
Mais pour moi, c'est pire ce qui se vit aujourd'hui, c'est encore plus triste parce que j'aurais pas imaginé voir mes enfants assis sur un bout de couverture échangeant de la nourriture contre des vêtements.
Il y a deux immenses marmites qui sont posées sur le feu que les enfants ont allumé un petit peu plus tôt dans la journée. Comment vous vous appelez ?
Sara.
Vous venez toutes les semaines ici chez Paola ?
Si.
Oui. Je viens parce que j'en ai besoin. C'est surtout pour les enfants. J'ai trois filles. Leur père ne me donne rien. Donc je dois me débrouiller comme je peux.
Vous avez quoi pour vivre chaque mois ?
Je dois mendier parce que parfois je n'ai rien. Le père de mes filles ne me donne pas de pension alimentaire, rien.
Est-ce que vous mangez tous les jours, madame ?
Non,
parfois non. Parfois je n'ai pas assez.
Comment vous feriez si ces cantines populaires n'existaient pas dans le quartier ?
On va dans le centre, les gens nous aident, surtout quand ils voient les enfants.
Comment ça se passe dans votre vie quotidienne qui est déjà terrible avec cette crise ? Comment vous survivez ?
On n'a même pas un sou pour manger. Alors quand on veut réparer des trucs à la maison, c'est impossible. Je voudrais qu'on nous aide parce qu'on n'a rien.
C'est l'heure de la distribution. Et c'est Paola qui s'y colle, qui est évidemment la chef d'orchestre de tout ça. Elle sert de large part à ces femmes qui attendent. Elle fait attention à ce que chaque part soit équitablement servie en viande, en poulet. C'est très important pour ces familles.
Attention, tu vas te brûler, attention. Elle veut manger à la fin.
Vamos a tener que agregar Hernán.
Hasta luego.
Cette dame repart avec un tupperware très 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 largement rempli par Paola. Sarah, là, avec ce que vous rapportez, vous avez combien de repas assurés ?
Non,
je ne sais pas. Peut-être seulement pour ce soir, pas plus.
Voilà, c'est allé assez vite, mais toutes les familles qui attendaient sont généreusement servies. Et elles sont toutes déjà reparties chez elles. On vous retrouve, Hernán Amendola, parce que vous n'êtes pas que un bénévole très actif dans cette cantine populaire où on vous a suivi. Vous êtes aussi coordinateur d'un foyer pour jeunes. Comment ce foyer peut faire vivre son activité en cette période de crise ?
Nosotros recibimos becas por chico del estado provincial
On reçoit de la province de Buenos Aires une allocation de l'ordre de 5600 pesos par enfant et par mois. On accueille 26 enfants placés par la justice, ce qui nous fait à peu près un budget entre 140 et 160 000 pesos par mois. Mais nos dépenses mensuelles sont au minimum de 350 000, voire 400 000 pesos. Donc notre problème principal, c'est de combler ce différentiel. Et on le fait grâce à des dons de nos amis, de personnes de la communauté et en bonne intelligence.
Donc le budget n'a pas changé, mais l'inflation est telle que par définition, il a fondu comme neige au soleil pour vous.
Absolument. Ce revenu mensuel qu'on touche n'a pas évolué depuis au moins 5, voire 6 ans. Et tout a augmenté entre-temps. Je ne veux pas paraître excessif, mais certaines factures ont doublé, voire triplé. Donc ça devient impossible de joindre les deux bouts.
Est-ce que cette crise empêche aussi la naissance de projets qui étaient peut-être dans les cartons éventuels, et puis on se dit que finalement, ils ne verront jamais le jour.
Nous n'avions pas un seul, mais plusieurs projets que nous voulions développer. Mais même avec l'aide du gouvernement de la province de Buenos Aires, ça ne serait pas suffisant. Ne serait-ce que pour financer 20% seulement de nos projets. C'est le moment d'être tranquille, d'attendre que ça passe.
Les projets resteront pour plus tard.
Et puis, ces projets, ce sera pour plus tard, sachant qu'on parle de projets qui sont nécessaires pour nous. Par exemple, une des idées que nous avions, c'était de créer un foyer pour les adolescents qui approchent de la majorité. Le but aurait été de les préparer à affronter la vie après le placement en institution. Pour ce projet, on aurait eu besoin d'une maison assez grande, avec une équipe technique importante pour leur offrir une assistance et une préparation nécessaires, en les incitant à continuer leurs études et à commencer à envisager une orientation professionnelle. Notre idée était de leur donner tous les outils possibles, de les former au mieux, mais aujourd'hui ce n'est pas possible.
On quitte la cuisine grande, puisqu'il y a 26 enfants, trois grandes tables en bois. On passe dans le patio.
C'est la cour de jeu, le patio avec les animaux. C'est l'endroit où les enfants ont tous leurs jouets et tout leur bazar. Ils sont très tranquilles, ils observent. Ils ne savent pas très bien ce qui se passe.
Est-ce que ça va durer?
Non. No va a durar nada. O sea, esto es.
Yo cuatro.
Porque los cumplió.
Ah, soy yo. Eso. Vos tenés seis, no tenés ocho.
Luciana, ¿quién es el más grande acá?
Yo. No, él no. Yo tengo ocho.
¿Vos sos
el más grande? No, yo. Es porque yo tengo ocho, porque los cumplí.
Yo cumplí. Cuatro.
L'un des secteurs les plus visés par cette vague d'austérité, c'est l'éducation. Et dans ce domaine, il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi un symbole, et il est très fort. L'éducation nationale n'a plus son propre ministère. C'est désormais un secrétariat d'État, au budget donc très réduit, jusque dans le domaine de la recherche. Et c'est ce que nous allons voir à la faculté de sciences.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Alors dans ce laboratoire, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, tous les plans de travail pour mener les travaux de recherche sont recouverts par des bâches, tout simplement parce qu'il y a des gigantesques infiltrations d'eau. Donc pour protéger le matériel, tout est couvert. Donc ça donne un esprit plus proche de la serre en termes d'agriculture que de laboratoire scientifique ici.
Et je suis Federico Norespondal, ingénieur-chercheur ici au laboratoire des technologies d'hydrogène et des énergies renouvelables à l'Université de Buenos Aires.
C'est censé être un bâtiment dédié à la recherche, à la science, donc au progrès. Et très honnêtement, on est où là?
Oui, mes collègues aussi au laboratoire, on est un peu déçus, bien sûr. On ne se sent pas motivés pour faire de la science.
Déçus ou tristes, ou même peut-être un peu déprimés?
Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, on continue comme ça, dans des conditions qui sont catastrophiques. Il y a des gens qui commencent à partir. Moi, j'aime bien la science, mais dans ces conditions, c'est un peu difficile. Et on ne sait pas comment on va continuer. Je suis un peu déprimé, mais un peu déçu aussi par la situation. Ce n'est pas ce que j'avais voulu, en fait.
C'est quoi l'espoir pour vous, alors?
C'est une bonne question. J'essaie de trouver l'espoir, en fait, de chercher où je peux trouver l'espoir. Il faut continuer, mais j'ai de plus en plus moins d'espoir, justement. Et j'ai commencé même à faire un virement dans ma recherche. Je faisais plutôt du travail expérimental. Et en ce moment, j'ai commencé à faire un petit peu de la théorie. Je reste dans le même...
Dans le même secteur, mais la méthodologie est différente.
Oui,
c'est pas par envie, c'est parce qu'il n'y a pas de moyen de faire de l'expérimental.
Exactement. Ça coûte cher. On demande des matériaux, on demande des équipements, il n'y a pas de l'argent. Voilà. Je ne trouve pas d'autre mot pour décrire cette situation. Je pense que c'est déjà une très mauvaise situation, très catastrophique. Épouvantable, c'est bien dit ça, épouvantable. On est en train de, comment dire, hypothéquer notre futur en fait, parce qu'on va commencer à avoir des moins ou moins chercheurs, des moins ou moins professeurs, parce que les gens, comme je vous avais dit au début, ceux qui le pètent, ils commencent à partir.
Et un pays sans chercheurs, sans professeurs, c'est quoi comme pays?
Ah non, bien sûr, si on veut du développement, ça c'est sûr qu'il faudrait mettre la priorité dans la recherche et dans l'éducation. Et comme j'ai dit au début, c'est difficile de trouver des motivations. Mais bon, je suis encore là, et pour l'instant. Et on verra.
Nous sommes à l'intérieur du bâtiment principal de la faculté de sciences, et ce qu'on remarque en entrant ici, c'est le nombre incalculable de banderoles qui sont affichées. Beaucoup de ces banderoles sont à destination du FMI. On remarque aussi une autre banderole qui a un message assez clair. Sans science, il n'y a pas d'avenir. Alors un gentil agent de sécurité nous a demandé de quitter le hall dans lequel on était il y a quelques minutes. On est à l'extérieur avec Émilie, 21 ans, future étudiante en sciences, mais qui fréquente déjà ce bâtiment. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous voyez toutes ces coupes budgétaires, toutes ces banderoles à l'intérieur de revendications? Et vous, comment vous vous sentez par rapport à votre future vie d'étudiante?
C'est assez compliqué, on en parlait tout à l'heure avec mes copains, parce qu'avant même de commencer nos études de sciences, on se demande déjà comment financer nos trajets en bus pour venir jusqu'ici. On est nombreux à venir de quartiers situés loin de la faculté, c'est isolé. Ensuite, on sait que les livres, ça coûte cher. Il n'y a pas de travail disponible. Et le peu d'emplois accessibles à des étudiants nous éloigne de nos études parce que ça te prend 10 heures de ta semaine. Et si tu le fais, tu sais que tu n'auras pas les mêmes résultats. Performances académiques en seront très affectées. La réduction du nombre de bourses d'études, ça aussi, c'est un sujet important. Il y en a très peu disponibles. C'est très difficile d'en recevoir une, que ce soit en médecine ou en biologie, où traditionnellement, il y a beaucoup de bourses attribuées. On a coupé le nombre de bourses. Tu peux parler à n'importe quel étudiant, il te le dira. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 2 ans. On ne sait même pas s'il y aura encore des professeurs. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est très particulier. On en parlait encore tout à l'heure.
Dans un courrier adressé au président Mauricio Macri, 13 prix Nobel et plusieurs centaines de chercheurs du monde entier dénoncent et s'inquiètent de cette paralysie de la recherche en Argentine.
Vamos a construir la Argentina que soñamos. Gracias. Gracias.
Mauricio Macri a été élu en 2015.
Gracias.
Son élection a été une petite révolution, dans le sens où sa vision très libérale est à l'opposé de la précédente page politique, marquée par les 12 ans au pouvoir du couple Kirchner. Néstor, dans un premier temps, puis sa femme Cristina.
Elle est désormais empêtrée dans les affaires, mais sa voix compte toujours. Elle se présente comme l'adversaire numéro un du FMI, là où le macrisme, le courant porté par le président actuel, est à l'inverse le partenaire du Fonds monétaire international. Ce clivage sera au cœur de l'élection présidentielle de fin 2019.
Je m'appelle Julio Burman, je suis docteur en sciences politiques et je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Buenos Aires.
Existe-t-il en Argentine un risque de voir une personnalité de l'extrême émerger? Je pense au pays voisin, le Brésil. Est-ce qu'il y a un risque comme celui-ci qui peut émerger dans un pays où on sent effectivement beaucoup de colère chez les électeurs?
Je crois que non, parce que... Et pour des raisons. La première, c'est qu'on a déjà traversé une période de changement politique. Macri, c'est le changement politique en Argentine. Et sans faire des comparaisons idéologiques, Macri, c'est notre Bolsonaro. Ça veut dire que c'est notre...
Il marquait la rupture.
Oui. Et aussi, on n'a pas ici les conditions au niveau des partis politiques pour l'émergence d'un Bolsonaro.
C'est parce qu'il n'y a pas de personnalité qui représente ce courant ou c'est parce que la société argentine est complètement réfractaire à ce courant?
Je crois qu'il est suffisamment réfractaire et aussi je crois qu'il y a un groupe de électeurs qui sont très à droite mais que maintenant ils se sentent représentés par les macrismes.
Cela étant dit, le scrutin est prévu pour octobre 2019. Au rythme où vont les choses, elle peut être très longue cette année en Argentine.
Oui, l'année prochaine sera tout à fait électorale, parce que le rythme de la crise économique est très difficile d'anticiper. On ne sait pas vraiment comment l'année prochaine va se développer en termes économiques. Au moins la moitié de l'opinion publique est convaincue que l'année prochaine sera même pire en termes économiques.
Comment faire campagne quand on sait que le pays est déjà pieds et mains liés avec l'accord qu'il a signé avec le FMI?
L'accord avec le FMI sera part de la campagne électorale. Bien sûr, le FMI est préoccupé et concerné avec la possibilité que les Argentins élisent un président qui veut sortir de l'accord avec le FMI.
Ce qui n'est pas le cas de Macri, donc aux yeux des Argentins, est-ce qu'il est vu comme le candidat, le président du FMI?
Il est le président qui a signé l'accord avec le FMI. Le FMI doit en même temps garantir l'austérité et en même temps la réélection de Macri, la continuité. Pour le FMI, le retour du kirchnerisme, c'est une catastrophe.
Le FMI veut obliger le ministre argentin de l'économie à réduire les dépenses prévues en 2002.
Des bus incendiés ou sans pare-brise, des vitrines de banque cassées par des pierres.
J'ai peur. Le pays est dans un tel état que tout le monde a peur.
La situation est sous contrôle. Et je sais que les Argentins sont des gens pacifiques.
Nous sommes avec Rulia qui a 24 ans, qui est une jeune active puisqu'elle travaille pour une société de conseil dans la communication politique particulièrement. Pour les jeunes de votre génération, la vingtaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on grandit avec le récit dans les familles de crises antérieures, 89, 2001. C'est quelque chose de, pas qui se transmet, mais c'est quelque chose qu'on se raconte quand même dans les familles?
Oui, bien sûr, ça se transmet. Parce que l'Argentine est un pays qui a été très affecté par des crises. Et ce ne sont pas des crises lointaines. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les conversations. Moi, en plus, ça m'intéressait de savoir comment ma famille a vécu ces crises. Parce que moi, quand j'étais adolescente et quand j'ai commencé à travailler, c'était un moment plutôt paisible, sans soubresaut majeur et sans crise profonde. Bien évidemment, l'Argentine a souffert de la crise mondiale en 2008. Mais cette crise-là qu'on vit actuellement, c'est la première vraie crise qui affecte mon propre portefeuille. Et le plus triste, Ce qui me fait dire que je ne veux pas vivre cette crise ici, c'est qu'on ne peut rien prévoir. On ne peut pas penser à long terme.
On a quasiment l'impression qu'en Argentine, il y a comme une culture de la crise, tellement elles sont régulières. Mais vous refusez cette culture-là, cette crise-là, vous préférez partir.
Je vais voir ce qui se passe au cours de cette expérience. Sur le principe, je pars avec un aller simple et je verrai ce qui se passe sur place. Voir si je peux étudier à l'étranger, quel travail je peux obtenir. Et si ça se passe bien, je prolongerai sans doute. Si c'est 2 ans, c'est 2 ans. Si c'est plus, ce sera plus, pas de problème.
Si me veo de acá un futuro... Lejano volviendo a Argentina.
Mais oui, je me vois revenir à long terme en Argentine, vu que ma famille est ici.
Où est-ce que vous vous voyez alors dans les prochains mois ?
J'hésite entre l'Italie et la France. Ce sont deux cultures que j'ai très envie de connaître. Je ne suis jamais allée encore en Europe, alors que j'adorerais aller dans l'un de ces deux pays. Je n'ai pas encore décidé. Mon idée, c'est de postuler à des bourses pour un master, et celle que j'obtiendrai déterminera l'endroit où j'irai, au moins au début.
On précise d'ailleurs que dans ce but-là, vous prenez des cours de français depuis quelques mois, mais que par timidité, vous avez préféré faire cette interview en espagnol. On se dit au revoir quand même en français.
Si, et... Coucou, salut, ça va bien ?
Salut.
Selon le FMI, le repli du PIB prévu à moins 2,6% cette année devrait être ramené à moins 1,6% l'an prochain. Malgré les efforts budgétaires, l'agence Standard & Poor's a dégradé en novembre de B+ à B la note de la dette souveraine du pays. Et la crise revint en Argentine. C'était un reportage de Vanessa Descoureaux avec Aude Villiers-Moriamé à réécouter sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet. Assisté de Stéphane Combe, mixage Nicolas Slimani. À la semaine prochaine.